9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour Culture Média saison 2 au menu, comme pour la saison 1. Médias et culture au sens large, très large, tous les médias et toutes les formes de culture. Avec des nouveautés, le journal des médias de Charles Decan, Eva Rock pour son zapping du lendemain et Bertrand Chamerois pour l'écran de veille. Ne le ratez pas, il a un document exceptionnel qui concerne le Tour de France. Ce sera juste après 10h, 10h1, 10h2, 10h3. L'info média du jour va se pencher sur TikTok, l'application chinoise qui révolutionne la com mondiale, au point que Donald Trump veut l'interdire sur le territoire américain. On vous dira pourquoi et surtout comment. Notre invitée média, c'est Élise Lucet. Elle fait sa rentrée en même temps que son magazine Envoyé spécial, ce soir sur France 2. Enfin, l'inclassable Arthur H, chanteur, compositeur, touche à tout, qui propose un spectacle unique, la boxeuse amoureuse. Et quand je dis unique, c'est unique. Il est sur scène avec un piano, mais également avec la danseuse étoile Marie-Inès Gillot et avec un boxeur professionnel et sa boxe. Il rend en prime son portrait inattendu par Hélène Manarino. Et là aussi, c'est unique. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decan.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias, c'est quoi le sommaire du jour?
Un départ majeur chez France Télévisions, le coup de colère d'Emmanuel Macron, la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones et la belle semaine de l'équipe.
Mais d'abord, les audiences, qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
En tête, on retrouve France 2 avec le retour d'Alex Hugo, la série la plus puissante de la chaîne. Elle n'a pas failli à sa réputation, avec 5,5 millions de personnes au rendez-vous pour 25,2% de part d'audience. C'est un très bon score pour la chaîne et pour la série. TF1 est deuxième avec la suite de la série américaine The Resident. Après son retour en baisse la semaine dernière, elle a limité la casse hier. Les deux épisodes de la soirée affichent une moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs pour 15,1% du public. La chaîne est largement leader sur les femmes de moins de 50 ans. Elle pointe à 28,7% de part d'audience. Troisième, M6 poursuivait la saga Indiana Jones avec Indiana Jones et le Temple Maudit. Le film a fait trembler 2,5 millions de téléspectateurs, soit 12,5% du public. Face à la concurrence de France 2, c'est quand même 900 000 personnes de moins que le premier volet de la saga la semaine dernière.
Et on commence ce journal des médias, après la virgule que j'ai oublié d'annoncer, la voici.
Culture Média.
Ce journal des médias qui démarre par un départ majeur à France Télévisions.
Le doute planait depuis des mois, mais hier, Takis Candilis a annoncé qu'il quittait le groupe public. Takis Candilis, c'est le numéro 2 de France Télévisions, plus précisément le directeur général délégué à l'antenne et au programme.
Évidemment, la question qu'on se pose toujours dans ces cas-là, est-ce que c'est un départ voulu ou subi?
A priori voulu, il a assuré au Figaro qu'il avait décidé dès son arrivée de ne pas poursuivre l'aventure au-delà du premier mandat de la présidente du groupe, Delphine Ernotte, qui a été reconduite à son poste en juillet. Pour autant, en juin dernier, il démentait les rumeurs de départ. Il assurait, je cite, « Je suis là et heureux d'y être ». Et sa patronne confirmait encore à Télérama la semaine dernière, je cite, « Il est plus que jamais là ».
Alors on va se pencher sur le bilan. Quel est le bilan de Takis Candilis?
Son départ intervient alors qu'il a participé à faire bouger le groupe, à lui faire reprendre des couleurs. Les audiences sont reparties à la hausse. Il a modifié l'organisation de France Télé en supprimant les patrons de chaînes et en créant des directions thématiques. Et il indique au Figaro qu'il préfère, je cite, « partir sur un succès ». A priori, pas de retraite au programme, mais un retour à la production de séries, métier qu'il connaît bien.
Une altercation qui fait beaucoup de bruit.
Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le fais toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin.
La scène se passe au Liban mardi soir et elle a été capturée par LCI. Ce que vous venez d'entendre, c'est Emmanuel Macron qui incendie le journaliste Georges Malbruno.
Et alors qu'est-ce qu'il a fait pour mériter d'être pris à partie aussi violemment et qui plus est en public?
Georges Malbruno, c'est un grand reporter au Figaro. Il est spécialiste du Proche-Orient et il a publié lundi soir un article où il évoque la stratégie du président français pour réformer le Liban. Il y révèle notamment des échanges supposés entre Emmanuel Macron et le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, ce mouvement politique dont la branche militaire, on le rappelle, est considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Des deux côtés, on estimait hier qu'il était déjà l'heure de tourner la page. Georges Malbruno s'est contenté d'une déclaration auprès de l'AFP. Je cite, je suis très surpris de la virulence de cette attaque qui est inacceptable et à laquelle j'ai répondu. Je me suis expliqué avec l'Élysée. Pour moi, l'incident est clos. Du côté de l'Élysée, on a fait savoir que ce qui avait provoqué cette colère, c'était le fait d'avoir publié ces informations concernant le président sans lui donner le droit de répondre ou de commenter. Là aussi, même conclusion, l'incident est clos.
Et forcément, un coup de colère comme celui-ci, ça fait réagir.
Et oui, évidemment, les condamnations ont été unanimes chez les journalistes, comme dans l'opposition de la France insoumise aux Républicains. La députée européenne LR Nadine Morano, par exemple, n'a pas manqué de souligner que cette sortie, qui met à mal la liberté de la presse, était particulièrement malvenue à la veille de l'ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo.
Beaucoup plus joyeux, hier se tenait le Grand Prix des médias CBNews.
Oui, Canal+ en est sorti grand gagnant avec pas moins de 6 prix, dont celui de la meilleure plateforme et de la meilleure campagne de pub. Autre vainqueur, le groupe L'Équipe, récompensé par 3 trophées, chaîne de l'année, meilleur titre de presse quotidienne et meilleur coup éditorial pour l'enquête sur les violences sexuelles dans le sport. Cette bonne nouvelle s'est ajoutée aux audiences du mois d'août, on en a parlé. Elles ont été publiées lundi. La chaîne L'Équipe a enregistré son meilleur score historique en août avec 1,8% de part d'audience. On a évoqué ces victoires avec le patron de la chaîne, Jérôme Saporito.
C'était inattendu. Ça vient couronner tout ce qu'on fait depuis un an, c'est-à-dire de structurer cette chaîne, de solidifier les émissions, d'avoir des incarnations fortes et puis de miser aussi sur des sports. Voilà, nous, on a la chance d'être en gratuit. Moi, je parle d'une chance. Alors, ça veut dire que budgétairement, on ne peut pas rivaliser avec les chaînes payantes. Mais il y a une place parce que 70% des Français ne sont pas abonnés à une offre payante de sport. Donc, il y a de la place pour faire émerger des sports qui méritent aussi d'avoir une diffusion en clair. Et ça, c'est plébiscité par les téléspectateurs parce que, voilà, encore une fois, tout le monde n'a pas accès à des chaînes payantes.
Un très bon début de semaine donc pour le groupe L'Équipe après un week-end un peu plus compliqué. Dimanche, le journal avait été accusé de sexisme suite à son choix de une. La victoire lors de la deuxième étape du Tour de France du Français Julien Alaphilippe avait pris beaucoup, beaucoup de place en première page, ne laissant qu'un petit bandeau aux joueuses de l'OL suite à leur victoire en finale de la Coupe des Champions. Un rappel pour la marque L'Équipe qu'il ne faut pas négliger le sport féminin, même si la chaîne souligne que ce sont des femmes qui commandent ces 3 sports principaux, le foot, le biathlon et le vélo, et qu'Estelle Denis est aux commandes d'une des émissions phares de L'Équipe.
On a encore beaucoup à faire parce que pour faire émerger encore plus le sport féminin, il faut qu'on prenne du temps aussi à expliquer qui sont ces championnes, d'où elles viennent, qui elles sont, quels sont leurs caractères, parce qu'on s'identifie aussi à des championnes. Et croyez bien que, évidemment, ça fera toujours parler. Et le fait que ça fasse parler, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire qu'il y a des débats et que le débat, il fait avancer et la place de la femme dans le sport... Plus que jamais, ça doit être central, c'est assez facile à dire, mais en tout cas, beaucoup plus respecté et trouver une place encore plus forte.
Une campagne d'information originale, campagne contre le Covid à destination des enfants.
Oui, c'est la rentrée et France Télévisions a décidé de faire appel aux héros de son offre jeunesse au coup pour apprendre aux enfants à lutter contre le Covid. La chaîne publique a mis à l'antenne une campagne d'information sur les gestes barrières. Objectif, apprendre à se protéger sans inquiéter les enfants, comme nous l'explique la directrice du pôle jeune public et animation de France Télévisions, Tiffaine de Ragnel.
Pour rassurer les enfants, on a fait le choix dans Raconte-moi les gestes barrières de favoriser l'identification en s'appuyant sur des personnages, des séries d'animation que les enfants connaissent bien. 8 héros pour les plus âgés et 8 héros pour les préscolaires. D'avoir un discours simple, facilement compréhensible, appuyé par des images et d'avoir toujours un ton positif et rassurant. Pour les plus petits, la démonstration est souvent très didactique, sans second degré, et on recourt aux comptines ou aux chansons pour faciliter la compréhension. Et pour les plus grands, on complète la démonstration par beaucoup d'humour et des clins d'œil à l'audience qui participent aussi à rassurer les enfants.
Au total, 16 spots ont été mis en boîte, 8 pour les 3 à 6 ans et 8 pour les 6-12 ans. On y retrouve Petit Ours Brun, Choupi ou encore les Pyjamasques pour les plus jeunes et Boulébi, les As de la Jungle et Angelo la Débrouille pour les plus grands.
Et ce qui est réjouissant, c'est que tous ces dessins animés ont tous des producteurs différents.
Oui, et chacun a mis la main à la pâte pendant l'été.
La série a été produite en un temps record, en partenariat avec le ministère de la Culture, le CNC, également le service d'information du gouvernement qui a validé l'ensemble des gestes sanitaires, et par 16 producteurs de Anime France qui ont proposé chacun sur la série qu'ils ont créée une histoire originale d'une minute trente pour apprendre les gestes barrières. Et cette série, elle peut être lancée grâce à leur travail acharné durant tout l'été, à la rentrée, au meilleur moment pour parler de cette question de la sécurité sanitaire.
Les 16 spots sont diffusés depuis lundi sur les antennes de France 3, France 4 et France 5, mais aussi sur les plateformes France.tv, Lumni et bien sûr sur l'application Ocou.
Attention oxymore, on vous annonce que TF1 prépare une surprise autour de The Voice.
Et oui, si on en croit nos confrères du Parisien, l'année 2021 sera riche en voix. On le sait, on en a parlé la semaine dernière, la 10e saison est attendue en début d'année avec Amel Bent, Marc Lavoine, Florent Pagny et Vianney dans les fauteuils des coachs. Mais la chaîne et la production ITV Studio France prépare une édition anniversaire qui devrait être diffusée plus tard dans l'année. On imagine fin août à la place de The Voice Kids.
Et alors, qu'est-ce qu'elle aura de spécial cette saison ?
Alors, on sait très peu de choses. C'est pour ça que je vous dis que c'est surprise, ouais. Philippe. On sait très peu de choses pour l'instant, car TF1 et ITV refusent d'en dire plus. Ce qui semble acquis, en revanche, c'est que Zazie et Mika seront de retour en tant que coach. La Une veut faire revenir des jurés emblématiques et les deux artistes auraient déjà donné leur accord, selon toujours nos confrères du Parisien. Le tournage de cette saison aura lieu dans la foulée de la 10e, a priori autour du mois de novembre.
Et là, il y a beaucoup de déçus qui vont entendre cette nouvelle. Il faudra se montrer pour découvrir la nouvelle série des créateurs de Game of Thrones.
Voilà, a priori pas avant 2022, donc deux saisons de The Voice, puis cette nouvelle série. David Benioff et D.B. Weiss, ce sont leurs noms, ils ont enfin trouvé le premier projet qu'ils vont développer pour Netflix. Si je dis enfin, c'est parce que les deux créateurs donc, de Game of Thrones ont signé leur contrat avec le service de streaming il y a déjà un an pour un petit billet de 200 millions de dollars.
Ils n'avaient rien fait pour 200 millions ?
Voilà, depuis un an, ils cherchent ce qu'ils vont faire.
Le gars qui a fait le chèque, dis donc.
Le premier fruit de cette collaboration n'aura pas grand chose à voir avec le Trône de Fer. Ici, pas de marcheurs blancs, de sauvageons ou de combats de soldats. Il s'agit d'une adaptation de la trilogie littéraire du chinois Liu Cixin, dont le premier volet, qui s'appelle Le problème à trois corps, est paru en 2007.
Alors j'avoue, je ne connais pas. Ça parle de quoi ?
Je ne connaissais pas non plus, je vous rassure. Ça parle du premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. Dans les années 60, une jeune astrophysicienne envoie un message dans l'espace et ce message est intercepté par les trisolariens qui s'apprêtent à quitter leur planète malmenée par ces trois soleils, d'où leur petit nom de trisolariens. Dégoûtée par toutes les horreurs commises par l'homme, la jeune femme leur envoie des informations qui, elle l'espère, leur permettront de réformer la race humaine.
Merci beaucoup Charles Decamp, à demain pour un nouveau journal des médias. Dans quelques instants, notre info média du jour, on va un peu rester en Chine en quelque sorte. C'est la puissance de TikTok, le réseau social chinois géant dans la communication des grandes marques. Guillaume Benesch, spécialiste du rajeunissement de marques, sera avec nous à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
C'est une application chinoise destinée aux adolescents qui se retrouvent au cœur d'un conflit politique et commercial entre Washington et Pékin. Son nom, TikTok. Donald Trump menace de fermer l'appli le 15 septembre aux États-Unis, privant potentiellement 100 millions d'utilisateurs là-bas. Pourquoi et comment cette application à la base de divertissement s'est transformée en enjeu pour les politiques, les grandes marques et les médias ? Pour en parler, nous sommes avec Guillaume Benesch. Bonjour.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes le cofondateur d'Audace Media, cabinet de conseil qui aide les marques, on va dire comme ça, à rajeunir leur cible en utilisant les réseaux sociaux. Vous avez quel âge ?
J'ai 20 ans.
D'accord, pas besoin de vous rajeunir. En quoi consiste votre travail que je viens de résumer à grands traits ?
Globalement, on accompagne donc des marques et des entités à toucher principalement des cibles assez jeunes, donc ça va de 15 à 25 ans en globalité. Et on les accompagne à rajeunir leur marque, à produire du contenu qui correspond à cette cible-là et surtout à correspondre avec les usages des jeunes, donc des usages qui peuvent être TikTok, qui peuvent être Instagram, qui peuvent être Snapchat. Et donc on les accompagne dans toute cette dynamique-là.
Vous avez combien de clients ?
On a une petite trentaine aujourd'hui.
Et vous les accompagnez sur quel domaine ?
Principalement, on les conseille d'abord sur domaine de pure vertical de type de client. Dans ce cas-là, on est sur la grande distribution, on est sur de la presse et des médias. On est sur des startups, aussi bien dans la fintech que dans d'autres domaines. Disons qu'on touche à peu près tous les milieux tant que ça nous inspire aussi personnellement.
D'un mot, c'est quoi la fintech ?
Globalement, ce sont des startups qui sont dans le domaine de la finance et qui essayent de disrupter, si on devait appeler
finance
ça.
Finance et tech. Alors, sur quel réseau il faut être pour toucher les jeunes ?
Ah bah, globalement, vous l'avez dit au début, TikTok. Ouais. Aujourd'hui, on est sur un réseau social qui est en pleine expansion, qui a eu un gros coup de boost avec le confinement en France. On est passé quand même de à peu près 4-5 millions d'utilisateurs en France sur TikTok fin 2019. Aujourd'hui, on est à peu près à 13 millions de visiteurs uniques par mois.
Mais ce qui compte, c'est pas tellement le nombre, c'est encore plus la cible. Par exemple, Facebook, c'est fini ?
Je pense pas que ce soit fini. Facebook, la preuve, vous êtes peut-être dessus. Moi, je sais que quand je me suis lancé sur Facebook, j'avais...
Je suis dessus, mais j'y vais quasiment plus jamais.
Bah, je pense que c'est un usage aussi qui va être vachement de soit de garder contact avec des amis, soit de grand répertoire. C'est-à-dire que Facebook a renouvelé page jaune en quelque sorte. Mmh. On arrive à retrouver des gens, machin, des gens.
Non, je voulais pas dire. Est-ce que c'est fini ? Est-ce que la boîte va couler ? Est-ce que c'est fini pour l'objectif qui est le vôtre ?
a pour l'objectif de toucher la jeunesse complètement. Complètement. On est sur un réseau social aujourd'hui qui n'arrive plus à agréger les jeunes. Snapchat a réussi à en prendre parti. Et aujourd'hui, on a une bonne cible sur Snapchat, même si les usages sont totalement différents. Mais si on devait parler de réseau social pur, avec vraiment du contenu adéquat, TikTok a pris le relais.
LinkedIn, Twitter, Insta, ça marche encore ou c'est fini pour les moins de 25?
Disons que LinkedIn a quand même un outil professionnel. Donc par rapport à une jeunesse qui a envie de trouver un travail ou qui est aujourd'hui dans une expansion un peu Startup Nation, on arrive à trouver des gens qui utilisent LinkedIn de façon assez opérationnelle. Maintenant, Instagram va être un moyen de discuter avec ses amis et de partager un peu sa vie au quotidien. TikTok va être un moyen de créer en quelque sorte un cercle social très large.
Alors c'est quoi TikTok si vous deviez l'expliquer à ma marraine qui est à Gap et qui est née en 1930?
TikTok, c'est un réseau social qui se spécifie par la force de son contenu. C'est-à-dire que c'est un réseau sur lequel on mange du contenu à foison.
Mais alors, c'est quoi le contenu?
Du contenu, ça peut être des vidéos de tout.
Mais déjà, c'est
principalement
très, très court.
De la vidéo sur TikTok.
Moi, je veux dire, ce que j'en sais, c'est que c'est très très court et que c'est vertical. Il faut tenir son
téléphone les yeux.
Verticalement.
Exactement.
C'est pas horizontal comme l'écran de la télévision, le 16/9. Et c'est des gens qui dansent et qui.
Disons que c'est un gros cliché de dire qu'il y a que des gens qui dansent sur TikTok. Aujourd'hui, on est sur un réseau qui, quand même, agrège 13 millions d'utilisateurs avec une grosse priorité au contenu. On a un réseau qui est donc situé en vertical, en effet, avec des vidéos qui font aller entre 15 et 59 secondes, maximum 59 secondes, et avec des créateurs de contenu qui se laissent la possibilité de faire quelque chose d'assez incroyable aujourd'hui sur un réseau social, qui est celle de pouvoir à la fois consommer du contenu, mais aussi le produire par une application de montage qui est intégrée à TikTok. Et c'est ça, et c'est là où il y a vraiment un tournant par rapport aux autres réseaux sociaux, comme il peut y avoir sur YouTube, où là on va avoir vraiment la différence entre le consommateur de contenu et la personne qui produit. Là, sur TikTok, la personne qui produit va aussi consommer, et celle qui consomme va aussi produire. Et donc, on a une vraie verticale de contenu qui est très 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 forte et on va pouvoir consommer de tout type de contenu et au-delà des danses, ça va aussi avec du contenu particulièrement intéressant, avec des médias qui se sont lancés dessus, avec des jeunes créateurs qui font des choses assez incroyables.
Mais là, on va en parler justement. Comment vous expliquez cette croissance absolument fulgurante? L'appli n'existe que depuis 2017 et TikTok a dépassé rapidement Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat. Vous disiez 13 millions, si en France, dans le monde, c'est 1 milliard d'utilisateurs. Comment vous l'expliquez?
Je pense que déjà, il y a un phénomène qui est assez marrant, mais quand on regarde justement les réseaux sociaux, il y a un peu le système de fonctionnement des réseaux sociaux. Un réseau social va tout de suite chercher un nouveau réseau social, des cibles qui sont plus jeunes, parce que ces jeunes cibles vont pouvoir s'épanouir sur un réseau où il n'y a pas encore des parents et où il y a une vraie liberté de contenu et d'indépendance. TikTok, ça allie ça avec le fait de pouvoir créer du contenu très très rapidement et accessible à n'importe qui, c'est-à-dire qu'on peut être au fin fond de la Polynésie française avec un Huawei, on est capable de produire des TikTok et de taper 1 million de vues. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez incroyable.
Mais il faut quand même avoir du talent.
Mais le talent, sur TikTok, je veux dire, on est capable, je veux dire, vous l'avez cité tout à l'heure, il y a des personnes qui font des danses et globalement, le contenu, si on devait essayer d'estimer un contenu qualitatif par rapport à une danse, je ne sais pas si on est capable de le faire.
Ouais, mais pour faire 1 million de vues, il faut que les gens aient un intérêt.
Disons qu'il y a un intérêt déjà qui est assez dingue, c'est-à-dire que TikTok va cibler grâce à son algorithme, en l'espace d'une semaine, va être capable de définir ce que l'utilisateur aime regarder. Et donc va le cibler au quotidien avec du contenu qui correspond à ce qu'il aime. Et donc ce qui fait qu'on peut arriver très très vite à avoir, je sais pas, une centaine de personnes qu'on va suivre et être tout de suite touché par du contenu qui nous intéresse pertinemment. Et donc, c'est-à-dire que chacun est libre, c'est très subjectif. Moi, le contenu qui va m'intéresser, je vais avoir des photographes, je vais avoir un cuisinier, je vais aller regarder un mec qui fait des vidéos marrantes. Et en même temps, je vais suivre le monde sur TikTok parce que ça m'intéresse d'être aussi captif par l'actu, quoi.
Moi, le contenu qui m'intéresse, c'est de continuer à vous entendre, Guillaume Benesch. Vous restez avec nous, Culture Média continue juste après ça.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Guillaume Benesch, cofondateur du cabinet de conseil Audace Média, qui aide les entreprises à cibler les jeunes et spécialement les moins de 25 ans. Qu'est-ce que TikTok a de plus qu'Instagram ou Facebook, par exemple?
Globalement, on a la chance de pouvoir faire des audiences qui sont majoritairement énormes, avec des croissances dingues, en l'espace de quelques jours et avec un budget qui est vraiment ridicule par rapport à d'autres réseaux sociaux. À type d'exemple, nous, quand on produit des contenus pour nos clients, on essaye toujours d'aller taper sur des contenus qui vont coûter au maximum un SMIC chargé par mois pour la marque, mais derrière qui vont pouvoir ramener des audiences qui vont être de 500 000, 1 million de vues en l'espace de quelques jours.
Un SMIC chargé?
Ouais, globalement.
C'est quoi un SMIC chargé?
On est à 1 700 euros par mois. Avec 1 700 euros par mois, on est capable de faire un bon petit million de vues.
On parle d'un réseau social qui s'appelle TikTok, réseau social géant créé par des Chinois il y a seulement 3 ans. Je dis ça, si vous prenez l'émission en route, vous êtes les bienvenus. C'est également, et ça fera par rapport aux réseaux sociaux, c'est un réseau de bienveillance. Il n'y a pas de haters sur TikTok.
Très peu.
Comment c'est possible?
Je pense que déjà, c'est un réseau qui, par son fond, est relativement très positif.
Ou est-ce qu'il est conçu comme tel, ou c'est le hasard qui fait
bon, déjà, comme tous réseaux sociaux, ils ont bien sûr des politiques de gestion et de où ils vont bannir des mots-clés particulièrement pour éviter les haters. Mais bon, par rapport à Twitter, si on devait comparer, ça n'a rien à voir, dans le sens où, bah, petit exemple, Emmanuel Macron qui se lance sur Twitter, sur TikTok, on va se dire, bon, tout de suite, il va se faire attaquer pour diverses raisons, comme sur tous ces réseaux sociaux. On a une vidéo qui a tapé les 8 millions de vues, et globalement, je pense qu'il doit y avoir 2 commentaires négatifs sur à peu près 10 000.
C'était quelle vidéo ?
C'est une vidéo qui était pour féliciter les bacheliers. Donc c'était assez marrant.
Ça 8 millions de vues.
Sorti une petite vidéo qui faisait, mais je sais pas, 45 secondes à peu près, où il félicite les bacheliers. Ça fait 8 millions de vues.
Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Abonnés en 3 semaines.
C'est le cœur du réacteur. Quelque chose que je ne comprends pas. Si on met cette vidéo, la même Emmanuel Macron qui félicite les bacheliers sur YouTube, pourquoi ça fait pas 8 millions de vues, vu que c'est le même contenu ?
Globalement, quand vous êtes sur YouTube,
Ou un autre, hein.
Tout le contenu que vous allez consommer, il y a 2 façons de consommer sur YouTube. Soit vous allez être tout de suite, je vais dire, dès que vous allez arriver sur le site web, vous allez avoir des recommandations de vidéos qui vont être là pour diverses raisons. Soit alors, vous allez vous perdre sur le réseau social. Donc, vous allez regarder une vidéo qui vous amène sur une autre vidéo, puis sur une autre vidéo, et finalement, vous allez consommer un contenu peut-être d'Emmanuel Macron qui félicite les bacheliers. Sur TikTok, on a cette chance d'avoir un fil d'actualité qu'on va appeler les pour toi, donc ça s'appelle comme ça, donc qui sont finalement pour vous, où vous allez regarder des vidéos en continu qui vont défiler sans jamais de fin. Et finalement, en fonction du nombre de likes, en fonction du nombre de commentaires, en fonction de l'engagement, en fonction du sujet, donc qui veut que dont va traiter la vidéo, et donc si ça vous intéresse, vous allez être ciblé par ça. C'est qu'au fur et à mesure, sur TikTok, on est capable d'avoir des scores qui sont énormes, parce que les gens vont consommer le contenu très rapidement, et puis on est sur des vidéos qui sont relativement très très courtes. Vous passez une demi-heure sur TikTok, vous voyez au moins une centaine de vidéos. Et c'est ça qui est assez incroyable par rapport à YouTube, où vous allez avoir une consommation beaucoup plus inférieure. Et à titre d'exemple, je me permets d'ajouter, sur TikTok, par rapport à d'autres réseaux sociaux, on est quand même à peu près à 66-70 minutes par jour de consommation de vidéos, qui font entre 30 et 45 secondes, ce qui est énorme.
Les marques sont de plus en plus présentes. On a compris qu'elles venaient y chercher de l'audience à moindre prix et de pouvoir cibler les jeunes qui se détournent des médias traditionnels. Des exemples de marques qui vont sur TikTok ?
Globalement, on a la Redoute, là, dernièrement, qui a fait une magnifique campagne. C'est-à-dire qu'en quelques jours, plus de 40 000 contenus créés par des influenceurs un peu partout et par des gens qui, au fur et à mesure, se sont appropriés la campagne de la Redoute. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, sur TikTok, la possibilité d'avoir des hashtags. Et sur ces hashtags, les gens vont poster des vidéos par rapport à ces hashtags afin de faire connaître eux-mêmes leurs propres vidéos et leurs comptes. Donc, il y a un vrai côté aussi. On va essayer de s'engager personnellement dans le truc et essayer d'avoir le maximum de vues. Mais en faisant ça, ça permet de servir la marque, puisque la marque qui va lancer un hashtag qui va être mis en avant par TikTok va être en capacité d'aller toucher des dizaines de milliers de personnes qui vont eux-mêmes produire des vidéos pour le service de la marque. Et c'est là où c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est capable, par rapport à des budgets qui sont, si on devait faire la même chose, où ça engageait 1 million de personnes sur un réseau social comme Instagram, on dépenserait des sommes astronomiques.
Pour les marques, donc on comprend l'enjeu. Qu'en est-il pour les médias ? Je rappelle, vous êtes ici dans Culture Média. Pourquoi est-ce qu'il faut être sur TikTok en 2020 quand on s'appelle Le Monde ou The New York Times, puisqu'ils y sont ?
Globalement, il y a un intérêt aussi, je pense, De cibler les 15-25 ans autrement que ce qui peut se faire sur les réseaux sociaux. Je pense que, par exemple, si on devait citer Le Monde, la problématique du Monde, c'est bon, on a déjà un lectorat qui est particulièrement plus âgé, notamment sur les réseaux sociaux, que la consommation d'articles en ligne n'est pas forcément très très développée sur les cibles des 15-25 ans. Et donc, naturellement, il y a besoin de créer du contenu un peu différent. Et puis, pour Le Monde, c'est aussi un moyen de se renouveler, c'est aussi un moyen de tester des choses. Là où il y a un frein pour les médias, et c'est le plus gros frein pour l'instant, c'est la peur de la non-monétisation des contenus. Parce que, bien sûr, à partir du moment où il y a un investissement sur des contenus, notamment des contenus éditoriaux et journalistiques, on a besoin de les monétiser, ce qui est totalement normal. Et donc, par rapport à ça, il y a toujours un peu une crainte de ne pas réussir à monétiser le contenu. Ce qui, globalement, à partir du moment où on est bien accompagné, on peut arriver à le monétiser. Et ça va être le cas, et c'est le cas de plein de médias. Je pense notamment à Tétu, qui imagine pourquoi pas se lancer sur TikTok. Ça pourrait être assez incroyable.
Qui est déjà Brut ?
Brut y est depuis un moment, mais Brut, ils ont la chance d'avoir une super équipe digitale qui a permis, justement, aussi bien par les Insta Stories, Snapchat et TikTok. Ils étaient parmi les premiers médias dessus. Puis il y a des exemples absolument incroyables. On prend l'exemple de Gala.
Allez-y, racontez Gala.
Gala, c'est l'automne dernier, la possibilité d'aller sur TikTok, une équipe de jeunes qui y réfléchissent, et finalement, aujourd'hui, c'est le plus gros média européen sur TikTok, plus +1 500 000 abonnés, c'est énorme. Et tout ça avec du contenu qui, en plus de ça, correspond à l'ADN du média. C'est-à-dire qu'on a du contenu qui traite de ce qu'ils peuvent traiter habituellement sur les autres plateformes, mais juste adapté aux usages de TikTok.
Mais alors, qu'est-ce qu'on voit, par exemple, sur le TikTok de Gala ? Qu'il parle des gens célèbres, mais c'est pas le prince Charles qui va mettre une vidéo.
Non, mais on va aller suivre des personnes célèbres, mais de la même manière qu'on peut le faire habituellement, que Gala peut le faire au quotidien, comme Paris Image peut le faire aussi. C'est-à-dire qu'on va aller suivre des stars, on va s'intéresser avec un petit côté people, on va aller les voir dans des événements. Bon, là, malheureusement, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais je veux dire, il y a toute cette dynamique-là qui est reprise sur TikTok, mais dans un format qui est vachement intéressant. C'est-à-dire qu'on va être sur des vidéos qui sont majoritairement très courtes, on va aller chercher des mots-clés, on va aller chercher des personnalités que les gens peuvent retrouver et dans lesquelles ils se retrouvent eux-mêmes. Et donc, en faisant ça, ils arrivent à cibler les 13-25 ans de façon très, très, très efficace. Et tandis qu'il y a d'autres médias qui, au contraire, essayent de se lancer et qui ont un peu plus de mal à prendre le pas de ça parce qu'il faut trouver le ton qui correspond à TikTok.
Et vous, notamment, vous travaillez avec SoFoot et le groupe SoPress. Gros enjeu également pour l'industrie musicale.
Exactement, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la majorité, et je pense que 70 à 80% des sons qui ont fait le top 100 international depuis 6 mois, la majorité sont nés sur TikTok. C'est-à-dire qu'on a eu un effet, il y a même des musiques qui dataient d'il y a 15 ans qui sont ressorties grâce à ça parce que des gens vont les utiliser pour leur contenu. Et donc, naturellement, à force de les voir dans d'autres contenus où les gens, de la même manière que le hashtag, vont reprendre ce son et vont sortir un contenu qui leur correspond, histoire d'avoir un maximum d'abonnés et de faire un maximum de vues, et ben ils vont faire marcher la musique. La musique ensuite va exploser sur les charts.
Merci beaucoup Guillaume Benet. Vous êtes le cofondateur de Das Media, cabinet de conseil qui aide les marques à rajeunir leurs cibles en utilisant les réseaux sociaux et particulièrement, on l'aura compris, TikTok. Merci. Je ne sais pas si elle est sur TikTok. Je vais lui demander dans quelques instants. Élise Lucet va être avec nous pour la rentrée de l'émission Envoyé spécial sur France 2. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Bonjour Élise Lucet.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, présentatrice du 13h de France 2 pendant 16 ans avant de prendre la tête d'Envoyé spécial il y a 4 ans. Vous incarnez également l'émission Cash Investigation depuis 2015. Et ce soir, c'est la reprise d'Envoyé spécial avec un thème, j'avoue, qui m'a surpris paradoxalement, un été pour tout changer. Pourquoi ce choix ?
Eh bien parce qu'on a tous été bouleversés par la crise du coronavirus, dans le bon sens et dans le mauvais sens. Et on a voulu faire état de ça. Dans le bon sens, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont dit à un moment, qu'est-ce que je fais dans une grande ville, dans un appartement qui n'a même pas de balcon, où je ne vois pas les arbres, où je ne vois pas la nature. Et l'été pour tout changer pour eux, ça a été de changer complètement d'endroit, de vie. Donc ils ont déménagé, ils ont pris cette décision un peu rapidement, ils ont quitté Paris. Il y en a aussi qui veulent quitter le centre de Bordeaux. Donc ça ne concerne pas que les Parisiens, c'est toutes les grandes villes. Et ils font le grand saut. Ils vont vivre ailleurs, certains dans le Cantal, certains dans les Bouches-du-Rhône, certains à Saint-Émilion, dans la région de Saint-Émilion, en se disant... On a besoin d'air. Et c'est vraiment ça qu'on ressent. Et
on vit une image terrible. On les voit à Bordeaux. On pense que c'est une ville tranquille. Et il y a un plan de la rue Sainte-Catherine.
Fou,
mais
hein,
c'est incroyable. C'est la fête de l'Huma.
Et alors, moi, je trouve ça génial. Elle dit, moi, j'ai l'impression d'être un saumon qui remonte la rivière. Oui. C'est affreux, quoi.
Exactement. Il y a quatre sujets.
Ouais.
Il y a des vacances inattendues. On va en parler. Il y a le calvaire des animaux. J'ai pas vu le calvaire des animaux. Je veux dire la vérité. Je veux dire comment ça se passe. Je regarde les émissions avant de recevoir les gens.
Parce que vous êtes sérieux.
Voilà, tout le monde ne le fait pas, ce qui paraît.
C'est vrai.
Et l'émission n'était pas encore terminée.
C'est vrai.
Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le calvaire des animaux ?
Alors, le calvaire des animaux, en fait...
D'un mot, hein.
Oui, la souffrance animale, vous savez, il y a une pétition qui est en train de tourner, qui a déjà recueilli plus de 600 000 signatures. Donc, c'est vraiment un sujet de préoccupation pour les Français de plus en plus important. Et il y a un peu un secteur dont on ne parle pas, qui est le transport des animaux. Parce qu'on voit beaucoup de vidéos sur l'élevage des animaux, avec des images horribles, mais on voit très peu d'images sur le transport des animaux. Or, c'est un secteur très réglementé en Europe et on va voir que parfois la réglementation est absolument respectée, mais alors parfois pas du tout. Donc vous avez des transports des élevages vers les abattoirs ou d'élevage vers élevage avec des animaux qui sont transportés dans des conditions absolument déplorables.
Beaucoup plus joyeux, on va voir des vacances inattendues, c'est ce soir. Et puis il y a petits patrons, grandes angoisses. On va commencer par se pencher sur eux. C'est peut-être le reportage le plus surprenant, reportage de Marion Liebmann. Les conséquences du Covid commence tout juste à se faire sentir chez les PME. Le sujet suit un chef d'entreprise marseillais. Il n'ose plus ouvrir son courrier. Son dernier chantier, c'est son plus gros chantier. Il bossait pour du matériel viticole. Portait sur 800 000 euros. Et depuis, avec le Covid, plus aucune commande, zéro client. Les entreprises ne font plus d'investissement. Et là, il a peur d'ouvrir son courrier. Il a déjà 100 000 euros de dette. Mais quand même, devant vos caméras, il ouvre une nouvelle enveloppe.
Chaque matin, dans sa boîte aux lettres, les relances des créanciers.
C'est une saisine du pôle de recouvrement pour la société Rodina France. Je ne sais pas exactement, je pense que ça doit être Trésor public.
Je reçois ça aujourd'hui, un avis de saisie de mes biens personnels. Il a été procédé ce jour par monsieur le commissaire de police, ce que je n'ai pas vu, à la saisie de vos biens. L'acte a été déposé à l'étude. Interdiction est faite de déplacer les biens saisis sous peine de poursuite pénale.
C'est une angoisse le matin d'aller chercher son courrier.
Ouais, il y a des jours, pour être honnête, j'y vais pas. On est quoi, mercredi? Je retournerai sans doute vendredi parce que je prends quand même un jour de répit au milieu pour souffler, quoi. Et quand je vais aller chez l'huissier, je suis seul. Quand je vais lire ce qu'il y a dedans, je suis seul. Et l'impact, j'évite d'en parler de trop autour de moi pour pas stresser ou angoisser qui que ce soit. C'est comme des coups, hein. C'est comme des coups de butoir. Hein. Voilà. C'est comme un boxeur qui prend une droite chaque fois. On la prend, on l'encaisse, on l'encaisse pas.
Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est en entendant ce témoignage, c'est qu'on a eu l'impression, enfin on a l'impression que ceux qui envoient ces avis, les huissiers, l'administration, la justice, sont totalement déconnectés du réel, qu'ils ne savent pas qu'il y a une crise.
Oh, ils savent qu'il y a une crise, parce qu'on le voit après, en fait, ce Franck, hein, qui est vraiment un témoignage extrêmement bouleversant, va demander une procédure de liquidation judiciaire. Ouais. Il va se retrouver au tribunal face à une juge et sa greffière. Il a une heure pour convaincre, et on sent bien dans le regard et dans les paroles de la juge que justement là, il y a de la compréhension. C'est-à-dire que franchement, on s'attend à une cascade de faillites là dans les semaines ou les mois à venir dû à la crise du coronavirus. Et je pense que la justice veut savoir si effectivement c'est à cause de la crise du coronavirus, savoir si l'entreprise a bien été gérée avant. Dans le cas de Franck, manifestement, c'est le cas. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du mois de mars, lui, normalement, travaille de mars jusqu'aux vendanges pour installer des cuves chez les viticulteurs. Et bien, à partir du mois de mars, c'est-à-dire sa pleine période de travail, il n'y a plus eu aucun contrat. Donc là, c'est vraiment de la faute, pour le coup, de la crise sanitaire. Et la juge est très compréhensive. Mais vous avez raison, ces courriers qui tombent dans la boîte aux lettres, c'est juste une horreur.
Mais oui, on a l'impression que c'est une machine et on se rend compte que c'est un homme qui a écrit ça. Il y a aussi des solutions. Vous restez avec nous, Élise Lucet. On parle de la suite d'Envoyé spécial qui fait sa rentrée ce soir.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Élise Lucet, la rentrée d'Envoyé spécial, c'est ce soir. Un été pour tout changer, c'est le titre générique de l'émission qui va passer à 21h. Un été pour changer de vie, des vacances inattendues, le calvaire des animaux et ce sujet, petit patron, grandes angoisses dont nous parlions. Vous avez trouvé une association qui s'occupe des entrepreneurs qui ont fait faillite. Ça s'appelle 60 000 rebonds. Et on voit une responsable qui explique personne, malheureusement. C'est très, très triste. La vie d'entrepreneur, ce n'est absolument pas la vie d'un salarié. Quand la société coule, il coule avec, même en France, avec toutes les protections sociales prévues.
Il arrive assez souvent que les entrepreneurs perdent leur maison, perdent leur véhicule, ils perdent tout. Ils se retrouvent à la rue.
À la rue ?
Ah oui, on a eu des cas d'entrepreneurs qui se retrouvaient dans une caravane, prêtés par un ami, avec leurs enfants. Ils se sentent tellement isolés qu'ils commencent à sombrer. On a des épisodes dépressifs plus ou moins sévères. Et puis, on peut avoir le geste fatal qui est arrivé à certains entrepreneurs.
Ça fait deux fois qu'on évoque le suicide, l'ACL, et tout à l'heure, c'était Franck. Il y a eu beaucoup de suicides depuis le Covid, où on les redoute
c'est très difficile de comptabiliser même le nombre de liquidations judiciaires ou de faillites, parce que c'est encore trop tôt. Mmh. En revanche, il faut vraiment insister sur l'action de cette association qui s'appelle donc 60 000 rebonds, qui existe depuis 2012. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'elle a été fondée par un patron qui lui-même a fait faillite et s'est retrouvé dans cette situation. Donc on voit très bien dans le reportage qu'en fait, enfin, ces chefs d'entreprise qui d'habitude sont le symbole du combat, de la victoire, etc., qui ont tout perdu, ils sont ruinés, ils arrivent là, trouvent en face d'eux des interlocuteurs qui savent les conseiller. Et ça, c'est super important parce que ce sont des gens qui, en général, n'aiment pas parler de leur propre défaite.
Ouais. Et là, on est loin du cliché salaud de patron et le commentaire le dit au détour d'une phrase, j'avoue que je l'ignorais. Comme tout chef d'entreprise, c'est le portrait de Ronan qui dirige une entreprise de chaussures à Cholet qui a coulé. Comme tout chef d'entreprise, il n'a pas droit à l'assurance chômage. Plus rien du tout. Ronan rencontre des personnes qui l'aident à retrouver un travail. Donc cette association, on lui apprend à écrire un CV, des lettres de motivation, appeler des entreprises.
Ce qu'il n'a pas fait depuis 18 ans parce qu'il était patron.
Mais il appelle, personne ne décroche. Et là, au détour du reportage, on découvre, écoutez bien si malheureusement vous êtes dans ce cas, on découvre une information pratique.
C'est pas évident non plus avec les boîtes de recrutement, c'est qu'elles ne répondent pratiquement jamais.
Mais oui, parce qu'elles sont très sollicitées et en fait, il y a des créneaux horaires. Le vendredi après-midi, c'est très facile de contacter les cabinets parce qu'ils ont, dans leur organisation, ils n'ont pas planifié d'entretien. Donc c'est plus facile à partir de 14h de passer un coup de fil et dire voilà, je vais envoyer ma candidature telle date. Est-ce que vous l'avez bien reçu? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Rapidement, est-ce qu'on peut se rencontrer?
Le vendredi, ouais. Une semaine après.
Trois jours après.
Ouais.
C'est frais encore dans la tête du recruteur. Il se souvient du CV et il dit ah tiens, je l'ai reçu, il m'appelle. C'est très positif.
Et non, ça fait plaisir. Et je pense aux gens qui sont peut-être dans cette situation, ce que je regrette. Appelez demain à 14h.
Absolument.
Appelez demain à 14h.
Et c'est en ça que l'association est super intéressante, parce que là, c'est une DRH d'un grand groupe qui donne ce conseil. Elle sait de quoi elle parle, quoi.
Ouais.
Et elle dit, bon, voilà, il faut appeler le vendredi 14h jusqu'à 18h.
Dans sa conférence de rentrée, Delphine Ernotte, présidente de France Télévisions, a lancé un nouvel objectif, un nouveau chantier, le journalisme de solution. Est-ce que c'est pas ça, le journalisme de solution ?
Si, bien sûr. Mais moi, je pense que dans tout reportage, il faut à la fois savoir poser des problèmes, lever des lièvres et proposer des pistes d'évolution. Et on le fait dans Envoyé spécial, on le fait dans Cache Investigation. Et c'est très important de ne pas non plus désespérer les téléspectateurs en leur disant juste tout va mal. Mmh. Parce qu'il y a des choses qui vont mal. Et c'est notre rôle, nous, en tant que journalistes, de dénoncer ça. Le journalisme de dénonciation, c'est très intéressant. Enfin, moi, j'aime pas trop ce mot dénonciation. On va dire plutôt le journalisme d'enquête ou d'investigation. C'est très important. Mais le journalisme de solution, même si j'aime pas trop le terme, moi, j'aime bien qu'on trace des pistes et puis que les gens puissent faire leur marché dedans. Parce que les téléspectateurs sont des adultes, c'est des grandes personnes. On n'a pas besoin de leur dire « Ah, la solution, c'est ça ». Il ne faut pas non plus être dans le monde de « oui-oui ». Mais c'est très important de dire qu'il y a des possibilités d'ouverture et de changement.
Le quatrième sujet, c'est des vacances inattendues. On voit des familles qui partent à la montagne à dos d'âne, une jeune femme qui passe une semaine en forêt avec trois fois rien, ou des balades en canoë sur les rivières. Je me dis « Mais c'est de la télé feel-good ».
Non, mais
c'est pas l'ADN d'Envoyé spécial, je vous le reproche pas. C'est un très beau reportage, mais je me dis, tiens, c'est surprenant dans cette case-là.
Eh bien, si vous voulez, c'est aussi la réponse à tous ces gens, et il faut les écouter, qui nous ont dit, mais la crise du Covid, c'était, mon Dieu, anxiogène, insupportable, ce que les journalistes ont envoyé à l'antenne. Et il faut dire que la crise du Covid, elle a aussi eu des effets positifs. Et un des effets positifs, c'est que 85% des Français ont passé leurs vacances en France. Et ils ont redécouvert un pays absolument merveilleux. Et moi, très franchement, quand j'ai vu le reportage, moi, en rentrant de vacances, j'avais qu'une envie, c'était de repartir dans les gorges de l'Allier, dans les montagnes des Pyrénées, ou en plein milieu de la forêt du Béarn, parce que c'est des coins totalement inconnus où tout à coup, on se dit mais c'est le rêve absolu, c'est Robinson Crusoe en France.
Puisque vous parliez du ton, Delphine Ernotte, c'était dimanche dans le JDD, je ne sais pas si vous l'avez lu, parlait Cache Investigation, ça revient.
Bien sûr.
Cache Investigation.
J'ai pas le droit de vous dire quand, mais ça revient bientôt.
Voilà, on dit pourquoi elle dit pas quand, parce que les chaînes tiennent secrètes leur date de diffusion.
Et trois semaines avant, on peut l'annoncer, mais on veut pas l'annoncer avant.
Pour que les édos télé puissent donner les programmes. Et Delphine Ernotte dans le JD a dénoncé le ton, un problème d'adéquation, dit-elle, entre le fond et la forme dans Cache Investigation. Est-ce que vous partagez cette critique? Est-ce que vous allez travailler en ce sens?
Elle parlait pas forcément de Cache Investigation.
Ah, si, si, si.
C'était
plus
générique.
Vous savez quoi? Je vous connais, Lise Lucet. Je me suis dit, je vais le prendre avec moi.
Mais relisez-le complètement. Elle parlait des magazines plus globalement.
Le magazine Cache Investigation dénonce, il réalise de bonnes audiences, mais il est parfois la cible de critiques. Comment
ça,
jugez-vous? Voilà, voilà. Elle dit, il faut qu'on s'interroge sur leur ton. Ah oui, nos magazines d'info, vous avez raison, leur ton. On a souvent un problème d'adéquation entre le fond et la forme. Vous avez raison.
Mais en l'occurrence, je pense qu'il faut toujours s'interroger sur nos émissions. Une émission, c'est toujours work in progress. Il faut tout le temps, il n'y a jamais de certitude. Il faut faire évoluer les choses. Il faut vraiment bouger, toujours faire évoluer les émissions. Et Cache Investigation va évoluer à la rentrée.
Au début de l'été, quand Delphine Ernotte faisait sa campagne pour sa réélection, il y a une brève dans le Canard enchaîné qui annonçait qu'elle avait fait discrètement savoir à l'Élysée qu'elle allait se séparer de vous si elle était reconduite.
Non, comment, encore une fois,
vous l'avez pris?
Non, la brève, c'était exactement, on va la retrouver ensemble, c'était en gros dans la feuille de route du prochain président de France Télévisions, quel qu'il soit, de gentiment m'enlever des grilles de programme. Et il n'y avait pas que moi, je pense qu'il y avait aussi la rédactrice en chef du 20h, voilà. Agnès Molinier.
Exactement, et comment vous l'avez pris?
Bah écoutez,
vous en avez parlé avec Delphine Ernotte?
Non, j'en ai pas parlé avec Delphine Ernotte parce qu'en fait, je sens de sa part depuis 5 ans, maintenant un peu plus de 5 ans, un soutien indéfectible, mais pas à l'égard de ma personne, à l'égard du journalisme d'investigation et du journalisme d'enquête. Elle est impeccable là-dessus. Donc je n'ai pas eu de crainte là-dessus. Après que certains aient envie de me voir quitter l'antenne, bah, si vous voulez, je n'avais pas besoin du Canard enchaîné pour le savoir.
D'un mot, vous avez dit Cache Investigation, sa formule allait changer. D'un mot, il ne reste 15 secondes. Elle va changer dans quel sens, vers quelle direction?
Écoutez, je ne peux pas le dire en un mot parce que c'est beaucoup trop long. Regardez Cache Investigation dans quelques semaines, vous le verrez. Mais on se remet toujours en question. C'est ça qui est intéressant, et que quand on est journaliste, il faut se remettre en question tout le temps.
D'un mot, plus hard ou plus soft?
C'est pas plus hard ou plus soft, j'ai envie de vous dire plus constructif aussi.
Merci beaucoup Élise Lucet. Un été pour tout changer, c'est ce soir sur France 2, c'est le retour d'Envoyé Spécial et Culture Média continue. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Le rappel des titres de 10h, puis Eva Rock et Bertrand Chameroy pour son écran de veille avec un document exceptionnel sur le Tour de France. Je peux vous dire, vous allez en entendre parler sur France 2. Ensuite, Arthur H pour un concert inédit et la réédition d'un récit autobiographique. Et puis Les Indispensables, une série et un comics. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.